Buzz Actuali.
Revue de presse.
Hashtag.
Portrait chinois.
Et bien sûr,
l'invité du jour.
C'est tout de suite dans Buzz Actuali.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce numéro 10 de la saison 3 de Buzz Actuali. Au programme, bonjour à toute l'équipe, bonjour Eric.
Oui, bonjour les gens.
Bonjour Bastien.
Bonjour tout le monde.
Bastien, pour qui c'est la dernière émission avec nous aujourd'hui.
Eh oui.
Puisqu'il part en stage et puis après à l'autre bout du monde. Et puis, bienvenue également à à Emilien qui nous rejoint aujourd'hui et qui fera une première chronique tout à l'heure. Et puis, bonjour à notre invité. Bonjour Monique Commandré, directrice de l'antenne Demande de l'Université de Perpignan via Domitien.
C'est ça. Bonjour, merci l'équipe de 48 FM pour votre invitation. Merci.
Voilà, on va parler évidemment des 25 ans de l'antenne Demande. C'est ce qui fait l'actu pour l'invitation de Monique Commandré aujourd'hui. Il sera question aussi dans cette émission de quarantaine,
C'est la crise.
D'accord, voilà, donc ce sera la chronique d'Éric. On retrouvera donc Emilien avec l'info inutile.
C'est ça.
Voilà. Le portrait chinois, évidemment. Et puis, la rubrique hashtag.
Voilà, la rubrique hashtag. Disabled people are hot. Voilà, les personnes handicapées sont également sexy. Voilà, c'est le hashtag qui fait le buzz.
Et une revue de presse avec plein de choses à découvrir. Ce sera à la fin de cette émission. Léa nous rejoindra, j'espère, avec une proposition. Et bah, tout de suite, c'est après ça, ça commence.
Buzz Actuali.
Alors, comme d'habitude, on commence cette émission en essayant de faire connaissance un petit peu avec notre invité. Monique, comment arriver à être directrice de l'antenne Demande de l'Université de Perpignan ? Qu'est-ce qui se passe avant ?
Alors, ce qui se passe avant, c'est d'abord un doctorat. Qui permet ensuite de présenter le concours, la qualification, on appelle ça, le concours de maître de conférence.
Un doctorat dans quelle discipline ?
Alors j'ai présenté un doctorat dans le domaine des sciences de l'information et de la communication. C'était un domaine assez innovant à ce moment-là. C'était le début du web et on croisait à la fois les domaines de l'informatique et puis des sciences humaines et sociales pour observer et puis développer ce web naissant. Donc un doctorat dans cette discipline et plus particulièrement qui portait sur les questions d'enseignement à distance avec une étude comparative avec ce qui se faisait au Québec.
Très à la mode aujourd'hui.
Effectivement, depuis ça s'est beaucoup développé. Voilà, donc présentation du doctorat, pour reprendre le fil de votre question. Présentation d'un doctorat, puis présentation du concours pour être qualifié aux fonctions de maître de conférence. J'ai été d'abord maître de conférence à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Et ensuite, je me suis installée en Lozère, pour des raisons de cœur plutôt, et j'avais très envie de travailler localement en Lozère. Donc j'ai rencontré l'équipe de l'IUP, ça a mis un certain nombre d'années, et puis j'ai réussi à avoir une mutation. Et donc j'ai intégré l'antenne universitaire. Très vite, la directrice qui était en place elle était originaire de Montpellier, elle a réintégré Montpellier et elle m'a gentiment confié la direction de l'antenne de Mende. Voilà. C'est une fonction que j'occupe quasiment depuis 2008 avec une année de parenthèse où la direction a été confiée à une collègue, maître de conférence aussi, Madame Sapinard.
Maître de conférence, ça correspond à quoi exactement ?
Alors c'est le premier grade d'enseignant-chercheur en fait et en anglais on parlerait de professeur assistant.
Alors, l'antenne Demande, justement, qu'est-ce que c'est, cette antenne de l'Université de Perpignan ? Déjà, pourquoi l'Université de Perpignan à Mende ?
Alors ça, c'est des choix historiques et certainement des raisons politiques. Moi, je n'étais pas présente en 1994, la création, mais l'Université de Perpignan a dans sa culture une habitude de délocalisation, on va dire, puisque c'est une université qui possède plusieurs antennes, Font-Romeu, Narbonne, Carcassonne, Mende, et puis maintenant le site à Tautavel. Donc je pense que c'est inscrit dans l'histoire de l'Université de Perpignan, qui est une université à taille humaine, et qui a cette volonté de contribuer à l'aménagement du territoire en matière d'enseignement supérieur. Après, ici, donc, même si je ne suis pas le meilleur témoin, hein, je n'étais pas en place à ce moment-là, ça correspond à une actualité à la fin des années 90, avec une volonté de décentralisation des structures d'enseignement supérieur. Et donc, la Lozère s'est positionnée, et la ville de Mende en particulier, pour accueillir donc une antenne de l'université de Perpignan. Voilà, c'est notre université de tutelle et on travaille de manière très efficace avec cette université.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend à Mende ?
Alors, historiquement, avant le développement sous forme d'une antenne universitaire, ça a été un IUP en tourisme, ce qui correspondait assez bien aussi au secteur d'emploi en Lozère. Donc un IUP en tourisme, et ça c'est la filière historique qui propose donc une troisième année de licence, management du tourisme. Et puis on peut poursuivre à l'issue de cette troisième année de licence avec un master 1, master 2, management du tourisme, avec deux options, une option en hôtellerie internationale et une option en valorisation du patrimoine et des territoires. Voilà, Bastien est un exemple emblématique de cette filière et notamment du master. Et puis, en 1999, Christian Garcia, qui était directeur à l'époque, a eu le nez, je dis, et a eu l'intuition de l'importance qu'allait revêtir le web et le multimédia. Il a créé donc en 1999 un DU, un diplôme d'université en multimédia, qu'il a fait évoluer en 2001 en licence pro multimédia. Et quand je suis arrivée, moi étant dans ce secteur aussi, je l'ai fait évoluer aussi, on a actualisé les contenus et c'est donc une licence pro communication numérique et e-activité. Donc c'est vrai que le domaine du tourisme est le domaine historique, mais le multimédia, ça fait longtemps qu'on travaille aussi sur ces questions-là et dans ce secteur. C'est aussi une filière qui est importante. On propose donc une licence pro communication numérique et e-activité.
Dès après le bac ?
Non, c'est à Bac plus 2. Notre recrutement, dans tous les cas, commence à Bac plus 2. Donc, on a des partenariats et un recrutement qui se fait à partir des BTS qui sont proposés ici sur le territoire de la Lozère. Mais on a aussi un recrutement qui vient de l'extérieur du département, bien sûr. Et puis, une filière qui commence à devenir aussi historique, l'administration des collectivités territoriales. On est là aussi parti des besoins qui avaient été identifiés par les maires des communes en Lozère, concernant une courbe démographique et puis de nombreux départs en retraite annoncés au niveau des secrétariats de mairie. Et donc, avec l'aide du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère, on a créé un DU, là aussi pour tester un petit peu un diplôme d'université, ça permet de voir la faisabilité du diplôme. Donc un DU qui s'appelait secrétaire de mairie et qu'on a fait évoluer en 2010 sous forme de licence pro. Donc licence pro métier de l'administration des collectivités territoriales, qui marche très bien, qui est une spécificité lozérienne, comme la licence pro communication numérique aussi d'ailleurs.
Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas des formations qu'on voit forcément partout.
Alors, sur les filières tourisme, elles sont dupliquées exactement à l'identique sur Perpignan, entre autres, hein, parce qu'effectivement, l'offre de formation supérieure en matière de tourisme s'est vraiment accrue et développée par rapport aux années de création. Mais pour les deux petites pépites lozériennes, donc la licence pro communication numérique et e-activité et la licence pro métier de l'administration et des collectivités territoriales, ces deux particularités qui sont liées à nos champs d'investigation, à nos champs de nos objets de recherche aussi, à nous, l'équipe permanente, et puis qui correspondent assez bien effectivement au biotope local, notamment la filière administration des collectivités territoriales, où on a 100% d'insertion professionnelle à la sortie du diplôme ou avant même la du diplôme, et une insertion professionnelle qui se fait pour grosse majorité sur le territoire quand les étudiants le souhaitent.
Là, justement, il y a combien d'étudiants ?
Alors, cette année, on a environ un peu moins de 170 étudiants. On tourne depuis quelques années autour entre 150 et 200 étudiants.
C'est pas trop compliqué de faire venir les jeunes ici ?
Ben vraisemblablement non. Et on a des arguments, notamment l'insertion professionnelle, hein, les résultats en termes d'insertion professionnelle, et puis le fait qu'on soit une équipe à taille humaine aussi, qui nous permet d'avoir une forme de convivialité avec nos étudiants. Donc bien sûr, on aimerait toujours plus en matière d'attractivité de nos formations, mais à la fois ça nous permet de garder un encadrement de qualité, des classes qui sont jamais surchargées. On a expérimenté une année ou deux, c'était le cas l'année dernière, une classe de licence où on avait pas loin de 70 étudiants. Voilà, on n'est pas équipé pour, on n'est pas appareillé et ça posait plus de difficultés que de contentement finalement. Donc oui, on aimerait faire davantage en termes d'attractivité, mais en la matière, les étudiants répondent et c'est effectivement toujours un peu plus confus dans la multiplication des plateformes pour déposer candidature. Ça, c'est ce qui, c'est un enjeu fort hein, de pouvoir être correctement référencé et être visible, puisqu'aujourd'hui le recrutement passe par une voie dématérialisée, donc intégralement par le web. On s'accroche et on continue à accueillir des étudiants qui font aussi le choix de venir étudier dans une petite structure et dans un territoire rural et qui les accueille avec bienveillance.
Donc là, pour Parcoursup, on a parlé l'émission dernière, c'est terminé, c'est bouclé, c'est...
Alors, comme nous, on n'intervient pas sur du post-bac directement...
C'est pas par ce biais-là.
Non, c'est pas par Parcoursup, c'est une plateforme qui s'appelle e-candidat. On peut trouver les informations sur notre site web formationuniversitaire.fr. Dans la rubrique candidater, il y a le lien direct vers cette plateforme qui s'appelle e-candidat et qui est la voie obligatoire, la voie de passage pour candidater et faire acte de candidature.
C'est le même principe que Parcoursup ?
Pas du tout. C'est juste une voie dématérialisée pour déposer son dossier. Il n'y a pas d'algorithme au préalable un choix.
Ça ne dépose qu'auprès de l'université de
Parcoursup. Oui, voilà. On choisit l'établissement et plus particulièrement la formation dans laquelle on souhaite déposer une candidature. Il n'y a pas de classement. Il n'y a pas de vœux rentrés par les étudiants. On est là sur la voie directe pour accéder à la formation souhaitée.
Et il y a des dates limites, j'imagine.
Oui, alors le processus de candidature, donc e-candidat est d'ores et déjà, la plateforme est déjà ouverte. Et c'est jusqu'au 12 mai pour déposer sa candidature dans l'une de nos formations.
Et bon, vous commencez déjà à avoir une petite idée du remplissage pour l'année prochaine ? Non, c'est trop tôt.
Alors, le secrétariat m'a récemment, Madame Tichit, qu'elle en soit remerciée, m'a récemment fait part d'un nombre de candidatures tout à fait acceptable. Moi, je me refuse à trop entrer dans le détail des candidatures avant la date de clôture pour un principe d'équité, en fait. Je préfère attendre le 13 mai pour me pencher sur ces dossiers.
Alors justement, les dossiers, qui le regardent ? Vous uniquement ou tous les enseignants de l'antenne ?
Alors pas du tout, hein. C'est des commissions pédagogiques qui sont votées au niveau de l'Université de Perpignan. En fonction des filières, en L3 on a une commission pédagogique, les licences pro, moi bien sûr je siège dans toutes les commissions des diplômes qui sont proposés ici sur l'antenne de Mende, mais il y a des commissions pédagogiques qui intègrent aussi des professionnels qui interviennent chez nous. Et ces commissions pédagogiques, elles sont votées au niveau des conseils de l'université chaque année.
Et alors, on parlait d'équipe pédagogique, justement, de combien d'enseignants-chercheurs sont présents à Mende ?
Alors, on a une équipe permanente de 6 personnes, 3 maîtres de conférence, donc des enseignants-chercheurs, un enseignant-chercheur aussi, mais qui est par voie contractuelle, on appelle ça les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, les ATER. Donc ça, c'est des contrats qui ont une durée limitée, de 1 an renouvelable une fois, donc on les accueille en général à Mende pour 2 ans. Et par ailleurs, un enseignant du secondaire qui est détaché sur l'enseignement supérieur, et puis un professionnel associé qui est en permanence dédié à l'antenne universitaire. C'est une voie aussi contractuelle. Et puis il faut citer, donc ça c'est l'équipe permanente, l'effectif de l'équipe permanente. Et par ailleurs, il faut ajouter, parce qu'ils importent énormément dans la formation dispensée aux étudiants, des professionnels qui interviennent plus ponctuellement pour un volume de, ça dépend, 10, 15, 20 heures. Mais ils apportent énormément en matière d'expertise et de connaissance des secteurs professionnels sur lesquels on travaille.
Et là, c'est pareil. Est-ce que c'est assez facile de pouvoir recruter, entre guillemets, corps enseignant de qualité, ou est-ce que les gens viennent facilement ou pas ?
Alors, sur l'équipe permanente, on a toutes, je suis désolée, c'est quasiment au féminin, fait le choix de cette affectation en Lozère. Donc, pour ma part, c'était une volonté, j'ai fait des pieds et des mains. À ce niveau-là, pas de difficulté. Après, pour les vacataires professionnels, forcément, eu égard à leur disponibilité, à la charge de travail qui peut être croissante sur leur emploi principal, c'est pas toujours évident. Bien sûr, on est attentif, parce que là aussi, ces dossiers passent au niveau des conseils de l'université. sont évalués quant à la capacité à avoir un niveau de diplôme requis qui soit au moins équivalent au niveau dans lequel on va intervenir. Donc, ils ont forcément le même niveau de diplôme que les étudiants qu'ils accueillent en cours. Donc, en termes de disponibilité, c'est pas toujours évident, mais ils le font avec beaucoup d'expertise. Et puis, c'est, je pense, tous les vacataires qui font cette expérience, hein, donc tous les professionnels qui interviennent chez nous en tant que vacataires, disent retirer un bénéfice énorme aussi de cette rencontre avec nos étudiants.
Très bien, très bien, très bien, très bien. Je pensais que tu allais poser une question, Eric. Je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave.
Est-ce qu'il y a des cours est-ce qu'il peut y avoir des formations par correspondance, entre guillemets, c'est-à-dire par Internet ou
Alors, vous touchez en plus à un sujet qui m'intéresse et que je connais bien. C'est pas tant développé que ça sur l'antenne de Mende, non pas que les moyens nous l'empêcheraient, mais parce qu'il faut qu'on veille aussi à avoir une dynamique locale, une dynamique étudiante. L'antenne universitaire bénéficie du soutien des collectivités territoriales, il est important. Et du coup, la contrepartie, c'est aussi qu'on accueille en présentiel des étudiants. Alors, on a une plateforme qui s'appelle Moodle, qui est utilisée d'ailleurs dans bon nombre d'universités françaises, qui nous permet de mettre à disposition de nos étudiants les supports de cours pour un problème d'assiduité ou pour du complément de cours. Moi, je suis très utilisatrice de cette plateforme, ça ne se substitue pas et ce n'est pas de l'enseignement à distance. Alors, on y réfléchit, hein, parce que bien sûr, c'est une modalité qui permet de toucher notamment des publics de formation continue sur des domaines de spécialité qu'on défend, notamment en administration des collectivités territoriales, où on aimerait bien toucher aussi un public de formation continue, c'est-à-dire des agents qui sont en poste dans les collectivités et qui ont besoin de compléter, d'actualiser leurs connaissances. Mais on y va modérément et timidement, parce que l'enjeu, c'est aussi de faire vivre cette antenne avec une vie étudiante qui soit visible localement et qui ait un impact localement. Donc, c'est intéressant. Je plaide cette modalité. Mais au niveau de l'antenne de Mende, on avance prudemment. L'Université de Perpignan est très pionnière en la matière. Il développe notamment un programme à l'attention des enseignants-chercheurs qui leur permet de développer des compétences, d'être accompagnés dans le développement de supports plurimédias et donc de travailler en ingénierie de formation pour augmenter leur capacité d'enseignement à distance, spécifiquement pour l'antenne de Mende. Je reste toujours sur cette prudence à faire en sorte qu'on attire encore les étudiants dans les salles de cours et dans cette belle ville.
Alors, ça y est, j'ai retrouvé ma question de tout à l'heure. C'était sur la recherche, justement. La recherche, elle est en lien avec le territoire ou ce sont des sujets de recherche et à la limite, vous pourriez chercher autant à Mende que justement à Perpignan ou ailleurs. Est-ce qu'il y a ce lien avec le territoire ou finalement, ce n'est pas trop le sujet ?
Alors, ça pourrait être le sujet, ça n'est pas suffisamment. Nos centres de recherche respectifs sont tous basés à Perpignan. Et puis, la progression d'un enseignant-chercheur, son évaluation, elle est faite au niveau national par les comités nationaux des universités, les CNU, qui sont organisés par discipline. Donc, il est important pour l'enseignant-chercheur de rester dans sa discipline pour sa reconnaissance nationale et sa visibilité. Donc, en ce sens, c'est parfois une limite de par la localisation de nos centres de recherche. On est rattaché pour grosse majorité au centre de recherche et d'études sur les sociétés et environnement méditerranéen donc de l'Université de Perpignan, le CREZEM, qui est tout à fait bienveillant sur le fait qu'on puisse développer une recherche plus située, plus localisée en Lozère. Mais avec cette double injonction d'être visible au niveau national, on ne le fait pas suffisamment. Il y aurait pourtant de quoi faire. Moi, sur mon objet de recherche, donc qui concerne les usages des technologies de l'information et de la communication, j'ai pu faire des papiers ou travailler sur des thématiques plus rurales, parce que c'est aussi, au-delà du territoire lozérien, une problématique qui m'intéresse. Mais on ne peut pas dire que je mène toutes mes recherches sur le territoire lozérien et local.
Combien de recherches doit faire un enseignant-chercheur à peu près par an ou...
Alors, il y a une diversité de formes. Hein. Il y a de la publication, d'abord. Alors, plus elle est rankée au niveau, c'est-à-dire plus elle est évaluée et elle rentre dans les classements internationaux, mieux c'est. Donc, il y a cette activité de publication. On travaille aussi sur des ouvrages collectifs ou individuels. Moi, j'aime beaucoup la contribution à des ouvrages collectifs. Et puis, il y a les projets de recherche qu'on peut porter, plus orientés vers la société civile. Hein. Ça peut être mon cas aussi, ou sur des projets de recherche qui permettent de faire de la recherche-développement. Donc, en ce sens, il y a des collaborations intéressantes et c'est difficile, Bastien, de répondre à votre question en termes de nombre. Là, on va être évalué prochainement d'enseignants-chercheurs. Voilà, moi, par exemple, depuis la période 2015, je peux justifier deux articles de reconnaissance internationale, deux contributions à des ouvrages collectifs, des ouvrages scientifiques, et puis un certain nombre de journées d'études. Alors là, les journées d'études, c'est un format plus pratique et plus flexible.
Peut-être pour se le représenter, et ça rejoindra la question de Bastien, c'est le temps passé entre la partie enseignement et gestion de l'antenne et la partie de recherche. C'est peut-être le temps sur une journée de...
D'accord. Normalement, un enseignant-chercheur, il doit... sur une journée de Monique Commandré. Pauvre Monique Commandré. Donc, normalement, sur un enseignant-chercheur, c'est à peu près 50% d'activités d'enseignement et 50% de recherche. Après, quand on fait le choix de venir dans une antenne, donc un peu éloignée de son centre de recherche, j'ai même entendu des enseignants-chercheurs ici, basés en Lozère, qui disent « Bon, tu mets entre parenthèses ta carrière scientifique. » Bon, moi, j'y crois pas, je continue à m'accrocher. Mais en ce qui me concerne, c'est insuffisant ce que je peux consacrer à la recherche, mais aussi parce que j'ai une lourde charge administrative dans la gestion au quotidien de l'antenne universitaire.
C'est toujours un petit peu le problème dans l'université française aussi, le fait de finalement promouvoir les personnels au travers des recherches et finalement... de finalement pas forcément totalement valoriser les tâches de gestion et d'administration.
Oui, alors à la fois, ça serait bien que l'administration reste l'administration et que l'enseignant-chercheur puisse se consacrer à sa mission première. La tâche administrative a tendance à être de plus en plus chronophage. Mais effectivement, même s'il y a une valorisation de la partie enseignement, plus qu'administration.
Bien, on va faire une première arrêt avec la chronique d'Éric et tout de suite après la virgule, puis on reviendra sur cette actualité des 25 ans de l'antenne universitaire de Mende dans la deuxième partie de l'émission.
L'OZ Actuali.
Alors Eric, c'est la crise.
Vous savez, quand on est jeune, on rêve tous d'une vie intense et palpitante. Que fera-t-on quand on sera grand ? Cosmonaute ? Détective des fonds marins ? Mitrailleur ? Chirurgien qui rend beau les gens ? Ou leur remet les viscères en place ? L'avenir est à nous. Et puis un jour, l'avenir, c'est pour les autres. Lorsque la quarantaine survient, nous ne sommes jamais assez bien préparés. Et cela, malheureusement, on le comprend que le jour où ça nous tombe dessus. Vous savez, un matin... on se lève et on réalise soudainement que près de la moitié de notre vie vient nous passer sous le nez. Vous êtes déjà à bord du Titanic. Et la fin, quoique spectaculaire de ce légendaire bateau, n'a absolument rien pour nous redonner foi en l'avenir. Ou ce qu'il en reste.
Même pas Céline Dion. Hein.
Et nous saute alors au visage cette évidence qu'un jour, nous aussi, nous serons morts. C'est ainsi. Le quadragénaire aime bien calculer comme le temps passe vite. Ça aide à paniquer. D'ailleurs, vous serez peut-être même regardé dans le miroir ce matin en vous disant « Mais Dieu du ciel !» Alors déjà, rien que le fait d'utiliser cette expression prouve votre âge avancé. Donc, Dieu du ciel, disais-je, qui est cet homme que je ne reconnais plus, cerné jusqu'aux genoux et dont les quelques rides et les très nombreux cheveux blancs vous rappellent assez cruellement que vous n'avez plus 25 ans. Faut que ça s'arrête, qu'on se met alors à penser. Mais en même temps, si ça s'arrête, ça veut dire que tout est fini. Cruel dilemme. Alors, si vous n'aviez pas vu la chose... vu venir la chose qui vous est un jour tombée dessus à la vitesse d'un astéroïde destructeur, vous avez dû comprendre assez rapidement qu'il s'agissait là d'un moment de vie qui pouvait causer certains dégâts. C'est-à-dire que je pensais jusque-là que la quarantaine, c'était un peu comme les extraterrestres, qu'on en parlait beaucoup, mais que personne ne l'avait jamais vraiment vu. Voilà, pour moi, la quarantaine, c'était une maladie. Les gens qui avaient la peste ou la gale, qu'on ne pouvait pas approcher, on les mettait en quarantaine, ni vu ni connu, on n'entendait plus parler, et bon débarras. Mais non.
ce ne serait pas un mythe, mais bien une crise. Et je ne suis même pas sûr qu'il soit possible d'en réchapper. Alors, déjà, ne comptez pas sur les associations. J'en ai trouvé aucune sur les gens en milieu de vie. Il y en a pour les alcooliques, les joueurs de bridge, les mangeurs de chocolatine et même celles et ceux qui boivent dans des tasses licorne. Enfin, pour celle-là d'association, il faudra quand même que Léa nous le confirme. Mais pour les cadras, rien, nada. Sinon, je connais quelqu'un. Il préfère rester anonyme. Alors, je ne citerai pas son nom. Eh bien, ce gars-là, il utilise de la poudre de perlimpinpin pour paraître encore jeune. Bon, je suis sûr qu'en plus, il pique les crèmes de rajeunissement de sa femme. Mais ça, il ne l'avouera jamais. Alors, j'entends bien des conseils ici ou là. Je regarde des films de ma jeunesse. Vous savez, genre Le Cercle des Poètes Disparus, Carpe Diem, tout ça, profite du moment présent. Bon. En théorie, c'est formidable. Hein. Le problème, c'est la pratique. Admettons que j'ai envie de faire le trail de Lozère Sport Nature, comme on a vu à la dernière émission. Mais même celui de 7 km. Il y a encore 5 ans, j'aurais fait ça tranquille, en profitant. Mais maintenant, c'est au moins une semaine pour m'en remettre. Et encore s'il ne fait pas trop humide ou trop froid, parce que vous savez, les rhumatismes, super douloureux.
En si fait, j'étais le... pas casé quelque chose en plus.
C'est ça, tout casse vite après. En fait, le seul remède que j'ai trouvé, c'est l'alcool. Pour oublier. En plus, à mon âge, je peux me faire plaisir avec des bonnes bouteilles de vin ou de rhum. Quoique, là aussi, la brume des lendemains de naufrage devient de plus en plus difficile à dissiper. Non, le plus jubilatoire, c'est l'écriture. C'est fou ce que le fait d'écrire peut changer une vie, sans trop de difficultés et sans conséquences. Je peux ainsi mettre noir sur blanc tout ce que j'aimerais faire ou être, me venger des petits malheurs de la vie et oser. Oh oui, oser. Tout ce que je n'ai pas osé hier et tout ce que je n'oserai pas ou ne pourrai plus oser demain. Et si finalement la quarantaine, bien qu'elle puisse être un passage plus difficile pour certains que pour d'autres, n'en était pas moins une belle occasion de se réinventer soi-même.
Merci Eric, et on a le plaisir d'entendre tes écritures tous les 15 jours sur notre antenne, et c'est toujours avec grand plaisir. Il me faut quand même rappeler pour nos amis du CSA qui nous écoutent, rappelons-le, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, ceci étant fait, ça sera la première coupure musicale de l'émission avec le choix de Monique. Et alors, le premier choix
Arthur H, hein, voilà. Si je suis dans le bon ordre.
C'est ça, c'est parti.
Pour nous pauvres pêcheurs, mets-toi là, mon frère. fait chose prier pour nous pauvres pécheurs.
Allez, deuxième partie de cette émission, toujours avec Monique Commandré, directrice de l'antenne de Mende de l'Université de Perpignan via Domitia. Et on va parler justement de ces 25 ans de cette antenne de Mende qui auront lieu ce vendredi 22 mars et ce samedi 23. Alors, quel est le programme ?
Alors, on a vu les choses en grand, parce qu'on n'a pas tous les jours 25 ans. Hein. La chronique d'Éric nous le rappelle. Oui, on a vu les choses en grand, avec un programme donc, sur deux jours, le vendredi 22 mars, à partir de 14h30. L'invitation du président de l'Université de Perpignan, Fabrice Laurenté, du président de l'IAE, M. Raymond Brunet, et des différents directeurs qui sont impliqués au niveau de l'antenne de Mende, et puis les représentants des collectivités territoriales et des élus, donc un petit temps de cérémonie protocolaire, et puis un grand témoin conférencier, le professeur Patrick Cabanel, qui est rattaché à l'école des hautes études pratiques, et qui nous fait l'honneur de sa présence. Il lèvera le débat au travers de cette conférence. Ensuite,
une conférence sur quel thème ?
Alors, on garde le suspense jusqu'à vendredi. Il est historien, le professeur Patrick Cabanel. Il est spécialisé sur les questions de laïcité. Et là, il va prendre un peu de hauteur en nous montrant comment la connaissance de l'histoire nous permet d'avoir une pleine conscience et est un indispensable aujourd'hui par rapport aux enjeux contemporains. Et on le remercie de sa présence. À l'issue et après cette brillante conférence du professeur Cabanel, une cérémonie, c'est la première, de remise des diplômes donc aux jeunes étudiants qui ont été diplômés au printemps 2018 et qui vont recevoir de manière très formelle et cérémonielle leur diplôme obtenu l'année dernière. Donc ça, c'est le programme du vendredi 22 mars.
La conférence, elle est ouverte à tout le monde ou non ?
Alors, il reste de la place, effectivement, donc la population n'hésite pas à se déplacer pour assister à la conférence du professeur Patrick Cabanel. Et puis, je pense que c'est aussi intéressant de voir le formalisme universitaire et cette représentation aussi académique qui est intéressante.
Et c'est donc, il faut s'inscrire ou
On peut prendre contact encore, ouais. Oui, c'est bien de se manifester, hein, même si on peut venir de manière plus spontanée vendredi 22, donc dans les locaux de l'antenne universitaire Avenue Foch à Mende. Sinon, on peut faire un petit mail pour avertir de son souhait de participer et d'être présent à licence taft, taft@gmail.com. Licence taft. @gmail.com. Et puis, à partir de 18h, toujours ce vendredi 22 mars, on souhaite accueillir les anciens étudiants de l'antenne universitaire. 25 années de 25 promotions d'étudiants, ça fait du monde. On a réussi à toucher une bonne majorité, mais pas forcément tous. Alors, s'il y a encore des anciens étudiants qui n'ont pas reçu leur invitation, sachez que vous êtes les bienvenus. Et donc, à partir du vendredi soir, un apéritif musical qui sera organisé par le groupe de Guillaume Gaparos et qui permettra donc d'honorer ces promotions, ces nombreuses promotions d'étudiants. On continue le samedi matin.
Donc il y aura quand même une soirée, là, sans doute un peu, quand même.
Et oui, il y aura une soirée. Voilà. Pas sans là, doute un contre, peu, non, évidemment, et de manière certaine.
Là, par contre, c'est que pour les anciens élèves.
Voilà, l'idée, c'est de faire la jonction avec ce temps plus protocolaire et cérémoniel du vendredi après-midi, et effectivement, de commencer à accueillir nos anciens étudiants. Pour une grosse majorité, ils viennent de loin, puisque c'est des diplômés, ils se sont devenus des professionnels, dans le secteur donc, du tourisme ou du web, et ils ont déployé leurs compétences au niveau, pas seulement local, souvent au niveau régional, national et parfois international. Donc l'idée, c'est de pouvoir les accueillir le vendredi soir avec un petit apéritif pour ceux qui ont fait un long trajet pour nous rejoindre. Et on continuera dans un peu dans la même lignée avec nos anciens étudiants le samedi 23 mars à partir de 10h. Alors on a des ateliers, des témoignages canapés, je vous laisse imaginer la modalité de ces ateliers-là. Donc avec nos anciens étudiants qui viendront témoigner de ce qu'ils sont devenus depuis leur étude amende et voilà quel a été leur parcours après être passé à l'IUP, hein, parce qu'on parle encore de l'IUP ou après leur études à l'antenne universitaire. Et puis, samedi matin, aussi, ça peut intéresser les professionnels du territoire, les professionnels du tourisme, voilà, ici en Lozère, une conférence qui sera donnée par le professeur Nicolas Pépoc de l'Université de Perpignan sur la Chine, puisque l'antenne universitaire a un partenariat important avec une université chinoise, l'Université du Guizhou. Et donc, Nicolas Pépoc viendra nous parler alors, des collaborations universitaires, bien sûr, mais aussi et surtout du potentiel que peut représenter la collaboration avec ce grand pays et notamment en matière d'accueil d'une clientèle chinoise. Ça, c'est pour le samedi 23. Alors, il y a nos anciens étudiants, il y a nos actuels étudiants, ils sont toujours les bienvenus, hein, ils sont comme chez eux. Et puis, bien sûr, ça peut intéresser des professionnels qui ont envie d'ouvrir leurs propositions, leurs offres à une clientèle chinoise. On a vu les choses en grand, on continue le samedi 23 après-midi pour que cette antenne ouvre ses paiements à la population locale et en célébrant pour le coup ce partenariat avec le Guizhou, avec la Chine, qui a été initié par le conseil départemental de la Lozère. Et donc on propose là de manière beaucoup moins experte et pour un public plus large, un public plus familial, des ateliers qui peuvent s'adresser notamment aux jeunes enfants, des ateliers de calligraphie, un atelier Qigong pour pouvoir se détendre et trouver, se remobiliser un petit peu. Voilà, divers ateliers qui sont organisés le samedi 23 à partir de 14h.
Est-ce que ce sont des étudiants qui ont organisé les deux jours?
Oui. On leur doit énormément et qu'ils en soient remerciés ici. C'est la filière la licence pro, les étudiants de la licence pro tourisme d'affaires festivalier et territoire, qui est dans le secteur du tourisme et dont la particularité, c'est de travailler sur un territoire qui a déjà un potentiel touristique, d'augmenter, d'améliorer l'attractivité de ce territoire ou de ces territoires en proposant une offre de tourisme d'affaires, festivalière, événementielle. Donc c'est leur spécialité et effectivement, on leur a sous-traité l'organisation de cet événement. On est resté en filet, bien sûr, pour les accompagner, structurer leur démarche et les aider. Et tout le service communication de l'Université de Perpignan a aussi été très présent. Mais on doit leur tirer un chapeau parce que vraiment, ces étudiants, ils se sont mobilisés, toute la classe a œuvré toute l'année pour travailler à la programmation, les recherches de financement. Enfin voilà, ils ont fait un sacré boulot. Merci à eux.
Ils seront notés? Est-ce qu'on en fait un cas pratique, un vrai cas pratique ou pas?
Alors oui, ça s'inscrit, cette démarche, donc ça s'inscrit dans une ligne de cours qui s'appelle « Projet tutoré ». Pour laquelle ils bénéficient de quelques heures d'encadrement par un professionnel d'ailleurs de l'organisation d'événements, Monsieur Joyeux, qui sont aussi remerciés. Donc il y a des heures qui sont dédiées à leur encadrement, mais ce projet tutoré fait appel à une grande part de travail en autonomie pour les étudiants. Ça correspond pour chaque étudiant à environ, on estime ça, à 110 heures de travail en autonomie que chaque étudiant doit fournir dans le cadre de ce projet tutoré. Et donc, et oui, in fine, il y aura une note, mais la meilleure des évaluations sera le succès que va rencontrer l'événement, on l'espère bien.
Oui, ce sera la note de cœur aussi, un petit peu. Enfin,
tout à fait. Et d'ores et déjà, on peut relever leur implication, leur plein investissement sur ces préparatifs et l'organisation de ce bel anniversaire. Ça s'appelle Happy UPV Days.
Oh, c'est dur à dire.
Pas du tout, j'ai buté. Mais c'est comme un happy birthday, mais oui, qui souligne la présence de l'université de Perpignan, donc son acronyme UPVD. Et comme ça dure deux jours, Days. Non, mais il y a de l'idée.
Ouais, c'est juste que ça va être dur pour moi de dire l'adresse, de l'adresse du site internet où on peut retrouver toutes les infos. Mais c'est pas grave. Happy, donc UPV Days. Formation au pluriel universitaire au pluriel .fr.
Tout à fait, merci Guillaume de rappeler ces références.
Ouais, vous pouvez retrouver le programme et les infos. On vous souhaite un bon anniversaire alors.
Merci beaucoup.
Et donc rendez-vous vendredi et samedi. Mais l'émission n'est pas finie, on rappellera un peu les rendez-vous à la fin de cette émission. Tout de suite, la nouvelle chronique d'Emilien avec l'info inutile. C'est juste après ça.
Loz Actuali.
Allez, on va faire le tour de quelques infos inutiles pour briller en société, ou pas forcément, mais on va essayer. Alors, on commence avec le ketchup et un médicament.
Eh bien oui, puisqu'en 1834 aux États-Unis, le docteur John Cook Bennett, très réputé dans le milieu médical, prétend pouvoir soigner ou soulager la diarrhée, la jaunisse ou encore les indigestions. Il invite les personnes à consommer davantage de tomates en leur proposant des recettes de ketchup à base de tomates qu'il transforme ensuite en pilules. Celles-ci ont été vendues comme médicaments dans tout le pays, de nombreux imitateurs ont pris l'idée et l'ont vendu contre les maux de tête, la grippe et la toux. Cela était bien évidemment faux, mais à l'époque, la médecine était beaucoup moins contrôlée qu'aujourd'hui et certains en profitaient. Depuis, l'utilisation du ketchup a bien évolué.
Il n'y a plus forcément de tomates dans le ketchup. Les chameaux avant les voitures.
Aux Émirats Arabes Unis, une personne montant un chameau aura la priorité sur les autres véhicules. En cas d'accident avec un chameau, le responsable devra payer une compensation au propriétaire du chameau.
Ça, c'est les règles pour les assureurs, Eric. Une information, cette fois-ci mondiale, Rome partout, toujours.
En effet, il existe une ville de Rome sur chaque continent, ou presque. En Europe, il existe deux villes de Rome. La première est la plus célèbre et elle est la capitale de l'Italie. La seconde est située en Roumanie. Ensuite, aux États-Unis, il y a trois villes qui portent le nom de Rome. En Australie, c'est dans l'état du Queensland que l'on peut trouver la ville de Rome. Dans le continent africain, il s'agit d'une ville dans le Lesotho, enclavée au sein de l'Afrique du Sud. Tous les continents sont représentés, excepté l'Asie. Le proverbe « toutes les routes mènent à Rome » est donc vérifié et confirmé.
Oui, sinon, il y aurait eu le problème des océans. Impossible de se tuer en retenant son souffle.
Effectivement, il est impossible de se tuer en retenant son souffle. Si vous arrivez à retenir votre respiration pendant une période assez longue, vous perdriez simplement connaissance. Par la suite, votre corps reprendrait une respiration normale. Toutefois, l'expérience n'est pas à tenter. Priver son cerveau de respiration peut engendrer des lésions importantes et irréversibles.
Ça, c'est pareil que pour les consignes du CSA, il faut le dire. Une affaire de peau et de fourrure pour terminer.
Les tigres sont connus pour avoir la fourrure rayée, mais leur peau est elle aussi rayée. Ces rayures lui permettent de se cacher des proies qu'ils chassent dans la nature. Idée à chasser, il n'existe pas de tigre en Afrique. À l'état sauvage, le tigre est asiatique. Les ours polaires, quant à eux, ont sous leur fourrure blanche une peau qui est noire. La couleur blanche leur assure un camouflage idéal sur la banquise, tandis que leur peau noire leur permet de conserver la chaleur corporelle.
Eh bien, merci beaucoup, Emilien, pour ces infos inutiles. Effectivement, on en retiendra quelques-unes et on pourra en parler à la machine à café, avec collègues. Voilà, donc merci. Ce sera donc notre nouvelle chronique. Bravo pour cette première.
Merci.
Et tout de suite, le portrait chinois de notre invité.
Loz Actuali.
Allez, alors on va commencer avec l'animal. Est-ce que vous avez un animal totem?
Alors totem, non, mais mon animal préféré, c'est tout bête, hein, mais c'est le chien, pour sa fidélité. Le mien en particulier.
Loisir?
La lecture et le jardinage, de manière complémentaire.
Un endroit préféré en Lozère?
Ça va être compliqué, ça. Le Lozère est belle dans son intégrité. Sinon, le Mont Lozère, évidemment, et notamment son versant sud, le coin du pont de Montvert, via la...
Un endroit préféré dans le monde?
Alors là, je vais être inspirée, je rentre de Cuba, donc je suis encore très marquée. Cuba.
Une drogue favorite?
Le travail.
C'est beau. Une citation, une qualité. Oui, c'est sûr. Une citation.
Alors là, je regrette de ne pas avoir eu le temps de me préparer parce que je conserve très précieusement depuis mes cours de philo et j'actualise très régulièrement un petit carnet de citations. Donc je vais la faire de mémoire. Aïe, 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 attention, j'espère que les spécialistes de Camus ne m'en voudront pas. Vaut-il mieux être imbécile heureux ou conscient à ras de terre? Je vous laisse méditer.
Ouais, c'est un petit blanc. Une qualité, un défaut?
Alors une qualité, je pense ma persévérance, et un défaut, ils sont nombreux, je suis rarement à l'heure.
Vous étiez là pour l'émission, ouais, ça
ouais,
parfaitement.
Non, des fois. Hein.
Un plat préféré?
Alors, la pasta chota de mon compagnon, et pour rester dans le territoire lozérien, en résonance, la saucisse d'herbe.
Ok, un verbe ou un mot?
Agir.
Un héros ou une héroïne de fiction?
Compliqué. Alice au Pays des Merveilles.
Et un rêve?
Happy Baby Days. Que l'événement se passe bien.
Parfait. En plus, vous êtes pro et tout ça. Rappeler, c'est impeccable. Une deuxième coupure musicale et le deuxième choix. Donc, maintenant.
Donc Aretha Franklin.
Allez, c'est parti.
Merci.
Allez, c'est maintenant le moment de la rubrique hashtag avec Bastien.
Oui, alors le hashtag en ce moment, c'est Disabled People Are Hot. Voilà, littéralement, les personnes handicapées sont sexy. Donc, c'est ce hashtag qui fait le buzz et des centaines de milliers de témoignages qui affluent sur Twitter. Certains accompagnent leurs messages de photos, comme pour tenter de convaincre les plus réticents. Alors, surtout pour montrer que beauté, sensualité et handicap sont compatibles. Un hashtag positif initié par Andrew Cursa, un Canadien en fauteuil roulant à cause d'une infirmité motrice cérébrale. L'objectif, c'est de remettre les pendules à l'heure et de combattre tous les stéréotypes. Alors, cet hashtag donne l'occasion à certains d'échanger sur leur pathologie ou leur handicap et de se montrer tels qu'ils sont sans craindre le regard d'autrui. Pour d'autres, c'est une révélation. La plupart de ma vie, j'ai pensé ne pas être sexy, mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que je m'aime, voilà, qui assure un internaute, parce qu'être handicapé ne nous condamne pas à une vie de tristesse et de disgrâce, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent. Explique un autre, je peux utiliser un fauteuil roulant tout en restant charmante et séduisante, exprime une jeune fille en insistant sur le fait que le handicap n'est pas juste une tragédie. Mon handicap ne définit pas qui je suis, conclut une autre. Alors, je suis sexy, point. Voilà, des personnes à mobilité réduite, d'autres bipolaires ou encore souffrant de maladies invalidantes, toutes sont réunies sous une même bannière, revendiquer la diversité. Arrêtez de dire que nous sommes laides, indésirables, tu es sexy pour une personne handicapée. Voilà. Oh, donc André Gursa n'imaginait pas que son mouvement prendrait une telle ampleur. Le trentenaire certifie dans le Daily Mail l'avoir fait juste pour le plaisir et pour montrer que les personnes handicapées pouvaient se sentir bien dans leur peau et s'accepter. Mais très vite, des internautes du monde entier s'emparent de ce nouveau hashtag. Les personnes handicapées sont souvent désexualisées et infantilisées, admettent Andrew Gursa, et j'espère que ce hashtag changera cela, a-t-il confié, et un mouvement valorisant qui fait suite à d'autres hashtags comme Disable and Cute, qui voulait dire handicapé et mignonne, lancé en 2017 par Q Brown, une adolescente américaine. Donc le message, il est clair, faire de sa différence une force, c'est animé par cette même ambition que Gursa a décidé de créer une ligne de t-shirt Disable People Are Hot. Voilà.
Très bien. Ben, merci pour cette info sympa aussi, plutôt positive. Et donc, tout de suite, c'est la revue de presse.
Loz Actuali.
Et on commence avec Eric.
Oui, Daraya. Alors pour moi, ce nom sonne comme un conte des mille et une nuits. En fait, c'est le nom d'une ville de Syrie qui a vu l'épopée d'une incroyable communauté d'insoumis. Alors Delphine Minoui est une journaliste renommée, très renommée, et spécialiste du Proche-Orient. À l'automne 2015, elle tombe sur une photo publiée sur une page Facebook. Cette photo évoque une bibliothèque secrète. Dès lors, elle veut connaître qui sont ces hommes qui lisent dans l'obscurité. Pendant des jours, des semaines, des mois, elle tisse avec eux un lien singulier grâce à Internet. Ils s'appellent Shaidi, Hamad, Jihad, et au cœur de la ville rebelle de Daraya, assiégée par le régime de Damas de 2012 à 2016, ces jeunes révolutionnaires se sont mis en tête de sauver les livres des maisons bombardées pour créer une bibliothèque clandestine au fond d'un sous-sol. Un pari fou. À l'ombre de la guerre, les livres sont minutieusement classés, numérotés, et les noms de leurs propriétaires inscrits en première page. Je cite Shaidi, l'un de ces bibliothécaires improvisés. Au début, je n'y croyais pas. Pourquoi sauver des livres quand on ne peut même pas sauver des vies? Et la réponse qui en est toute trouvée. Ces livres, c'est un moyen de rester humain et de ne pas basculer dans la radicalisation. Ils sont chaque jour de plus en plus nombreux à fréquenter ce refuge de papier pour lire tout type de livres. Ouvrages de sociologie, manuels de théologie, recueils de poèmes, romans. Après, cela peut paraître paradoxal, mais même sous les bombes, les livres qui ont le plus de succès sont ceux sur le développement personnel. Très vite, la bibliothèque se transforme en université de tous les possibles. Une incroyable bouffée d'oxygène au milieu du chaos. Alors, aujourd'hui, la bibliothèque n'est plus. Le régime a repris le contrôle de Daraya. Mais il n'a pas tué tous leurs rêves. De cette histoire est né un livre qui s'appelle « Les passeurs de livres de Daraya », puis un documentaire « Daraya, la bibliothèque sous les bombes » pour montrer leur épopée, leur amitié joyeuse et indéfectible. Si loin de l'étiquette de terroriste qu'on s'est obstiné à leur coller. Alors c'était idéal, continuer à exister en Syrie, dans un petit camion bibliothèque conduit par l'un d'eux à Idlib. Alors je vous invite ainsi à lire et à voir cette histoire encore plus extraordinaire qu'un conte des mille et une nuits.
Merci Eric, merci beaucoup. On poursuit, on change le propre de la revue de presse et de passer d'un sujet à un autre. Et on parle de musique qui pourrait influencer le goût du fromage.
C'est ça, c'est une voilà. Petite revue littérature, bon, très sympathique. Pour ma dernière, j'ai voulu faire soft. Les mentales et sensibles à la musique, telle est la conclusion d'une expérience menée pendant plusieurs mois par la Haute École des Arts de Berne, donc il faut prendre ça au sérieux, dans une cave d'affinage de Berthoud dans l'ouest de la Suisse. Après 6 mois et demi d'affinage au son du rock, de Led Zeppelin, de la musique de Mozart ou du rap, les organisateurs ont annoncé ce jeudi soir que les fromages de Bietwampfleur, fromager affineur de cette commune située dans la vallée de l'Emmental, présentaient des goûts différents en lien avec les mélodies qu'ils ont écoutées. Depuis août dernier, les petites meules de fromage étaient installées dans des boîtes ouvertes en bois avec en dessous une enceinte leur diffusant de la musique en continu. Au programme, la flûte enchantée de Mozart, de la techno ou encore du groupe de hip-hop pour des meules voisines. Alors, des notes plus douces pour le hip-hop, un fromage non sonorisé servait de référence, tandis que d'autres étaient bercés par des sons continus de différentes fréquences. Le groupe de fromage qui a écouté du hip-hop et de la fréquence basse était vraiment sur des notes beaucoup plus douces et beaucoup plus florales, a jugé le chef cuisinier suisse Benjamin Luissu dans un interview du Midi Libre. Et selon la communiqué de presse de la Haute École des Arts de Berne, le fromage soumis au hip-hop se révèle particulièrement fruité en termes d'odeur que de goût et se distingue donc clairement des autres échantillons. Donc il y a des gens qui l'appellent et qui leur posent la question suivante. Avez-vous du fromage avec de la musique des Balkans? Vous avez du blues? Est-ce que vous avez des fromages ACDC? A-t-il confié avec un grand sourire. À côté de lui, des jolies étiquettes portant en lettres gothiques des noms de styles musicaux, country, blues, patiente en attendant de prochains tests. Voilà.
Mais voilà, effectivement, j'avais vu aussi cette info. Et bah, c'est original. Vive le fromage.
Vive le fromage, voilà.
Bah, pour moi, je vais rester dans les questions de son. Avec, j'allais vous dire que j'allais parler de Q, mais non, je vais vous parler de Q, la première voix de synthèse qui neutralise les genres, puisque ah oui. Bah, vous savez que qu'on utilise Siri, Alexa, Cortana, Google et Google Home, les assistants vocaux sont désormais tout à fait partout dans notre environnement quotidien. Ils peuvent répondre à nos questions, nous assister, mais ils nous parlent dans une langue, et surtout avec une voix qui pour l'instant avait un genre soit féminin soit masculin. Et donc pour y remédier, Virtu, l'agence créative de Vice et la Copenhagen Pride Venant, je sais, c'est pas facile à dire, viennent donc de dévoiler la création de Q, la première voix artificielle non genrée. Alors, ils ont d'abord essayé d'enregistrer une dizaine de voix d'hommes, de femmes, de transgenres et de personnes non-binaires en pensant les mélanger grâce à un logiciel, avant de se rendre compte qu'une telle tâche relevait de l'impossible. Et en fait, ensuite, ils ont travaillé avec des linguistes et des ingénieurs du son afin de définir quels pourraient être les paramètres d'une voix non-genrée. En s'appuyant sur des recherches, l'équipe a constaté qu'un timbre dont la fréquence se situe entre 145 et 175 Hz est perçu comme non-genré, puisque au-delà de 175 Hz, la fréquence évoque une voix féminine, et en dessous de 145 Hz, on reconnaît les voix d'hommes. Voilà, et donc 4 voix différentes sont nées de cette expérimentation. Ils ont ensuite testé auprès d'un échantillon de 4600 personnes en leur demandant quelle était la voix qui était pour eux la plus neutre. Et donc, ils ont eu ce retour de 4600 personnes. Et donc, la voix maintenant, et vous pouvez l'écouter.
T'as pas un exemple à nous faire écouter?
Alors, j'ai essayé hier soir, mais la qualité sonore de l'enregistrement du site internet sur lequel c'était pas très pratique à faire. Donc, je l'ai pas pour vous le faire écouter, mais vous pouvez retrouver ça. Je vous incite à retrouver l'article qui en parle sur une nouvelle plateforme qu'a développée Slate.fr qui s'appelle Kori, avec un K-O-R-I-I. Slate.fr et qui parle notamment de tout ce qui est usage des nouvelles technologies, des choses, tout ce qui est économie numérique et des choses très intéressantes dans cette nouvelle plateforme. Bon, vous allez sur Slate.fr et tout en haut à droite, vous avez un petit logo jaune et c'est par là que ça se passe. Voilà pour cette revue de presse du jour. On n'aura pas eu le sujet de Léa, mais bon, c'est pas grave. Elle nous a boudé aujourd'hui, je crois. Alors, pour terminer cette émission, on rappelle l'événement de cette fin de semaine avec l'anniversaire des 25 ans de l'antenne de Mende de l'Université de Perpignan via Domitien. On vous rappelle qu'il y a vendredi après-midi un grand témoin avec une conférence auquel vous pouvez participer. Il est encore temps d'envoyer un petit message pour s'inscrire. On va rappeler l'adresse mail, peut-être.
Oui, licencetaft@gmail.com.
Voilà, et puis donc la journée de samedi, ouverte plus globalement au grand public, avec une conférence aussi, des témoignages des anciens, et puis des différentes découvertes autour de la Chine tout au long de la journée, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà, merci donc, et je rappelle, je vais retenter le coup de le faire aujourd'hui.
Je peux vous aider, Guillaume.
happyepvdays.formationuniversitaireufr.fr. Voilà.
Merci.
Merci beaucoup, Monique Commandré, d'être venue pour cette émission. Merci à Emilien d'être rentré dans l'équipe. Et on le retrouvera, j'espère, la prochaine fois. Merci, Bastien, d'avoir fait le début d'année avec nous.
Mais merci à vous.
Et on te souhaite plein de belles aventures.
Merci beaucoup.
Et un bon stage à Bastien et puis une bonne
merci.
Partie.
Merci beaucoup. Et puis merci à vous de m'avoir fait confiance.
Voilà, c'était un plaisir. C'est à ça que servent aussi les radios associatives, c'est de laisser la parole, les micros ouverts pour que tout le monde puisse s'exprimer. Merci. Cette émission sera rediffusée jeudi à 19h, mardi à 12h30. N'hésitez pas à nous parler sur le web et sur les réseaux sociaux. À bientôt. Bonne journée à tous. Bonne quinzaine.
À bientôt.
Au revoir.
Loz Actuellement.